Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : N'est-ce pas là le fils de Joseph ? Mais il leur dit : Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famille se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vient de lire, vous vous en souvenez, ce passage d'Isaïe qui annonce une année jubilaire. Voici que Dieu rendra la vue aux aveugles, il permettra aux boiteux de marcher, il libérera les captifs. C'est ce que nous avons lu dimanche dernier. Et il vient de dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Il se manifeste donc dans la synagogue de Nazareth, au milieu des siens, comme celui qui vient accomplir la parole de Dieu, comme étant la parole de Dieu pleinement réalisée, d'autant que sa réputation l'a précédé, puisque son auditoire espère et s'attend à ce qu'il guérisse, exorcise, comme il l'a fait ailleurs. Il en est de même pour nous. La présence du Christ au milieu de nous manifeste l'accomplissement des promesses du Seigneur. Et nous sommes dans une année jubilaire, celle de la miséricorde. Alors, en entendant cet évangile, nous devons découvrir que nous aussi, nous pouvons avoir la même tentation que l'auditoire de Jésus. Quelle est cette tentation ? Celle finalement de ne pas saisir l'essence même du salut qui nous est proposé parce que nous enfermons la promesse de Dieu dans les limites de notre vision humaine, de notre existence humaine. L'auditoire de Jésus, après être entré dans l'admiration, se dit : mais n'est-ce pas là le fils de Joseph ? Ce besoin, cette tentation de réduire le message, la personne divine à sa mesure. Comment ne pas évoquer l'épisode du veau d'or dans le désert ? Les Hébreux se sont dit à un moment donné : bon, Dieu, il est bien gentil, mais faut quand même qu'on puisse mettre la main dessus. Alors on va faire un veau d'or. Ce n'est pas qu'ils se sont créés une fausse idole, mais c'est qu'ils ont voulu maîtriser Dieu, le mesurer, pouvoir le regarder, pouvoir le toucher, pouvoir faire des courbettes devant lui, et puis le ranger au fond du placard, hein, si jamais il devenait gênant. Et c'est un peu ça ce qui se passe avec Jésus. Jésus, on te connaît. Tu es le fils de Joseph. On t'a vu grandir. Ah, je t'ai porté sur mes genoux, pourrait dire à quelqu'un du village, peut-être. On connaît, on sait d'où il vient, on sait comment il parle. On sait ce que nous en a dit, ce que nous en ont dit ses parents. Une manière de se dire, on sait, on maîtrise. Donc, il ne va pas nous la faire. Hein. Et pourtant, Jésus vient en disant, il faut entrer dans cette année jubilaire, dans cette année de grâce. C'est-à-dire, il faut entrer dans la vraie charité. Et pour entrer dans la vraie charité, et ce n'est pas pour rien que le pape, à propos de l'année jubilaire, nous donne le symbole d'une porte à passer. Il faut accepter de se déplacer dans ses certitudes et dans ses convictions. Et là, Jésus va essayer de conduire son auditoire à prendre la mesure de cette charité qui leur est faite et qu'on ne peut pas enfermer, qu'on ne peut pas délimiter. On pourrait se dire en écoutant cet évangile que finalement, si l'on veut un miracle de Jésus, eh bien, il faut aller en dehors de son pays. Il faut aller en terre étrangère. Comme pour la veuve de Sarepta, comme pour Naaman le Syrien. Que ce soit d'aller de terre sainte en terre étrangère ou de terre étrangère en terre sainte. Il faut sortir de son pays. Sommes-nous prêts à sortir de notre pays? Et par pays, j'entends justement ce qui fait, ce qui structure notre existence religieuse, spirituelle. Ou est-ce que nous préférons maîtriser, délimiter? Mais à ce moment-là, le fruit sera le rejet, la fureur, la colère. À la fin de l'évangile, nous voyons Jésus qui est poussé dehors pour être jeté en bas. C'est aussi déjà l'annonce de la passion du Christ qui sera rejeté par les siens, crucifié et mis au tombeau. Mais on ne peut pas enfermer Dieu. Jésus sortira du tombeau. Jésus montera au ciel. On veut le précipiter en bas, mais lui s'élève dans la gloire de Dieu et nous appelle à la même chose. Alors comment? Comment vivre ce passage de la porte? Comment vivre ce déplacement? Nous l'avons entendu dans la lecture sur la charité. Nous ne pouvons opérer ce passage. En hébreu, ça se dit Pâques. Qu'en étant animé d'un véritable amour, l'amour de Dieu, en étant animé vraiment de la charité. Souvent, ce passage de l'Épître aux Corinthiens est pris par les fiancés pour la célébration de leur mariage parce qu'ils y voient le miroir, le reflet des sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Mais là, il s'agit bien plus que d'un sentiment. Il s'agit d'une vertu théologale, c'est-à-dire cette manière que l'infini de Dieu, l'amour infini de Dieu a de se proportionner à notre petite existence de créature en venant perfectionner ce qui est le moteur de l'amour, notre volonté éclairée par l'intelligence. Le propre de la volonté, c'est de se porter vers le bien. Et on se porte vers le bien après l'avoir identifié, et sans aucune contrainte, sans aucune coercition, librement. La charité, c'est cela. C'est ce qui nous porte vers l'amour de Dieu, c'est ce qui nous porte vers Dieu, parce que nous le connaissons et parce que nous le voulons sans contrainte, sans coercition. Mais la charité ne se porte pas sur une institution. La charité ne se porte pas sur des idées. La charité ne se porte pas sur un système. La charité se porte vers le bien divin qui est une personne, qui est une communion de personnes. Ce n'est pas de la charité que de donner une piécette pour soulager la misère du monde. Ça, c'est de la redistribution. On est dans la doctrine sociale de l'Église. La charité, c'est une relation de personne à personne, parce que l'amour est toujours l'amour de quelqu'un, jamais l'amour de quelque chose. On a le désir d'une chose, mais on a l'amour d'une personne. Jésus nous invite à prendre ce chemin de charité et d'amour, c'est-à-dire à passer cette porte. Et là, nous comprenons alors pourquoi, dans cette année jubilaire que nous avons à vivre et que vient éclairer cet évangile, il nous est proposé de vivre des œuvres de miséricorde qui sont l'expression de cette charité qui nous anime et qui nous font regarder la misère des autres comme une misère dont nous nous sentons solidaires, soit d'une manière spirituelle, soit d'une manière plus corporelle. Ainsi, nous comprenons pourquoi aussi il y a cette œuvre de miséricorde qui consiste, par exemple, parce que c'est un sujet un peu qui peut fâcher, accueillir l'étranger. Jésus ne nous demande pas, au nom de la charité, d'établir un système ou un autre, d'avoir des idées politiques ou sociales. C'est pas ça. Ça, chacun peut faire ce qu'il veut. Après, il faut confronter ses convictions à la doctrine sociale de l'Église. Mais la charité, c'est pas ça. La charité s'adresse à une personne. Sinon, nous risquons d'entretenir en nous ce sentiment de colère, ce sentiment de rejet qui nous fera non pas rejeter les autres, mais rejeter le Christ. De même, une œuvre de charité spirituelle consiste à avertir le pécheur, de lui dire « c'est pas bien ce que tu fais ». Il ne s'agit pas de partir en croisade contre des principes, contre des idées, contre des systèmes. Ça, on le peut, on a le droit, mais ce n'est pas une question de charité. Encore une fois, c'est une question de conviction, de doctrine, mais la charité nous tourne vers quelqu'un pour nous dire « mais ce que tu fais, c'est pas bien ». Parce que tu te coupes de l'amour, tu te coupes de la joie, tu te coupes de Dieu. Sinon, nous risquons d'entretenir en nous des clivages, nous risquons d'entretenir en nous de la haine. Et ce n'est pas un système ou un autre que nous rejetterons à cause de cette colère qui s'entretient en nous. C'est le Christ que nous rejetterons. Alors demandons au Seigneur, en ce dimanche, qui nous fasse entrer dans cette vraie charité qui n'est pas un sentiment, qui n'est pas une idée, mais qui est une volonté de communion et de communion avec Dieu à travers le Christ, qui est d'accueillir ces bienfaits qu'il vient nous apporter par sa présence et qui demande à ce que nous acceptions, eh bien, de faire un passage, de nous déplacer, de sortir de cette tentation très humaine d'ailleurs, quand on lit toute l'histoire sainte, de vouloir contrôler, mesurer Dieu et son amour. Que le Seigneur nous aide à entrer dans cette miséricorde, c'est-à-dire dans cet amour qui vient envahir la misère de notre péché pour faire de nous ses disciples, pour faire de nous les enfants de son Père. Amen.